Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du vendredi 7 mars 2025. Au Sénégal, la France a commencé à restituer ses installations militaires. Crise politique à Bissau, le président Oumarou Sissoko Embalo a convoqué aujourd'hui les partis pour une concertation. En RDC, Joseph Kabila initie un dialogue de l'opposition sur le futur politique du pays.
Il ne pensait pas que le pays pouvait revivre des situations aussi calamiteuses comme aujourd'hui, parce qu'au moins là, il s'était inscrit dans la voie de la démocratie qui n'est plus là. Aujourd'hui, c'est la tyrannie.
Ferdinand Kambéré, le secrétaire permanent adjoint du PPRD, le parti de Joseph Kabila, nous en dira plus dans la partie magazine. En Syrie, les autorités lancent une opération de sécurité dans le berceau du clan Bachar al-Assad. Les États-Unis allègent les droits de douane pour le Canada et le Mexique, apaisant la tension commerciale, mais le conflit avec la Chine persiste. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la Minute Eco. On commence par le journal. La France a restitué aujourd'hui plusieurs installations utilisées par l'armée française au Sénégal, les premières transférées dans le cadre d'ici la fin de l'année de son retrait militaire de ce pays ouest-africain où elle était militairement présente depuis 1960, a annoncé aujourd'hui l'ambassade de France. Les précisions de John Lydon.
La partie française a remis à la disposition de la partie sénégalaise les installations et logements des quartiers Maréchal et Saint-Exupéry ce vendredi 7 mars 2025, indique un communiqué de l'ambassade à Dakar. D'autres entreprises seront restituées selon le calendrier conjointement agréé, indique le texte sans plus de précision. Paris avait, le 12 février dernier, annoncé la mise en place d'une commission conjointe avec Dakar pour organiser les modalités des départs des éléments français au Sénégal et des restitutions d'ici la fin de l'année 2025 des entreprises. Cette commission s'est réunie pour la première fois le 28 février sous la présidence du général Abdou Latif Camara, directeur de l'Institut de défense du Sénégal, en présence de Christine Fage, ambassadrice de France au Sénégal. Le Sénégal est resté, après son indépendance en 1960, l'un des alliés africains les plus sûrs de la France, ancienne puissance coloniale dominante en Afrique de l'Ouest. Mais les nouveaux dirigeants en fonction depuis 2024 ont promis de traiter désormais la France à l'égal des autres partenaires étrangers au nom d'une souveraineté recouvrée.
Le président de Guinée-Bissau, Oumarou Sissoko Embalo, a convoqué ce vendredi les partis politiques à une concertation pour tenter de trouver une sortie de crise alors que la principale coalition d'opposition qui boycotte la rencontre estime que son mandat est expiré depuis le 27 février. Le point avec Eric Manirakiza.
Le but de cette rencontre est de chercher un consensus sur la date des élections générales, législatives et présidentielles, a déclaré M. Embalo ce vendredi à l'ouverture de la réunion. Après avoir repoussé des élections prévues pour novembre 2024, M. Embalo a annoncé il y a 2 semaines des élections présidentielles et législatives pour le 30 novembre prochain et s'est déclaré lundi candidat à un second mandat. La loi stipule qu'en année d'élection, la période soit entre le 23 octobre et le 25 novembre, a précisé le président Embalo. L'ex-premier ministre et rival d'Embalo aux dernières élections, Domingos Simeos Pereira, a appelé la principale coalition d'opposition qu'il dirige à boycotter la rencontre de ce vendredi, accusant le président de tromper l'attention des gens pour gagner du temps. On demandait que les élections soient fixées entre octobre et novembre 2024 pour que le 27 février, on ait le nouveau président, a poursuivi l'opposant en exil au Portugal pour raison de sécurité. Il a eu 5 ans pour préparer la tenue des élections. Ce n'est pas maintenant qu'il est en dehors de son mandat qu'il va appeler. À quelles conditions a-t-il estimé? Le mot d'ordre de l'opposition à paralyser le pays le 27 février en signe de protestation n'a pas été suivi dans la capitale, où un impressionnant dispositif de sécurité avait été déployé. Une mission de haut niveau de la CEDEAO s'est rendue en Guinée-Bissau du 21 au 28 février pour rencontrer les leaders de plusieurs partis et tenter de renouer le dialogue avant d'être expulsé du pays par le président Embalo.
Le président kényan William Ruto a signé aujourd'hui un accord de coopération politique avec son rival de longue date, Raila Odinga, visant à stabiliser sa présidence après des mois de troubles. Les deux hommes se sont engagés à s'attaquer aux défis économiques et de gouvernance du Kenya, notamment la dette et la corruption. Odinga, candidat à la présidence à 5 reprises, a déclaré que l'accord vise à apaiser les tensions nationales et à réaligner les priorités pour les jeunes. Centrafrique, un rapport de l'ONU dénonce les crimes commis par le groupe armé Wagner Tiazandé, WTA, lié à l'armée. Ce groupe est accusé d'avoir tué 24 personnes et violé des femmes lors de 2 attaques en octobre 2024 et janvier 2025 dans le sud-est de la Centrafrique. Le haut commissaire Volker Turk réclame des mesures urgentes et une enquête sur les liens entre WTA et l'armée nationale. Il insiste sur l'importance de ne pas laisser ces crimes impunis. Un hélicoptère de l'ONU a essuyé des tirs dans l'état du Haut-Nil, dans le nord-est du Soudan du Sud, faisant 1 mort et 2 blessés au sein de l'équipage, a annoncé aujourd'hui la mission onusienne dans ce pays. Un regain de tension a été observé ces dernières semaines dans le Haut-Nil, où l'armée dit avoir été attaquée par une milice liée au vice-président, l'ancien chef rebelle Riek Machar, faisant craindre la montée d'une violence généralisée.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le monde entier célèbre demain, 8 mars 2025, la Journée internationale des femmes, sous le thème « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation ». Cette année met l'accent sur l'autonomisation des jeunes, en particulier des femmes et des filles, comme moteur de changement durable. Elle marque également le 30e anniversaire de la déclaration et du programme d'action de Beijing, un jalon majeur pour les droits des femmes et l'égalité des sexes. En Syrie, les autorités ont lancé une opération de sécurité dans le berceau du clan Assad, selon les médias d'État. 69 Alaouites, membres de la communauté de l'ex-président, ont été exécutés, selon une ONG. Les précisions avec Mouamadou Mfa.
L'OSDH, Organisation syrienne des droits de l'homme, a affirmé que les forces de sécurité syriennes avaient exécuté 69 membres de la minorité alaouite lors d'une vaste opération dans le nord-ouest de la Syrie contre des combattants fidèles à l'ex-président Bachar al-Assad. Les autorités du pays ont envoyé ce vendredi des renforts et lancé d'importantes opérations de ratissage dans cette région dans un contexte de violence sans précédent qui ont fait au moins 147 morts depuis jeudi selon l'OSDH. De son côté, une source sécuritaire citée par l'agence officielle syrienne Sana a fait état d'exactions isolées commises par des foules non organisées qui se sont dirigées vers la côte en représailles à l'assassinat de plusieurs membres de forces de sécurité et de police par des hommes fidèles à l'ancien régime. Un couvre-feu a été prolongé jusqu'à samedi dans les régions côtières de Latakié, bastion de la communauté alaouite, et celle de Tartou, plus au sud. Le rétablissement de la sécurité dans le pays est le défi le plus urgent pour le nouveau pouvoir, issu d'une coalition de groupes rebelles islamistes qui a renversé Bachar al-Assad le 8 décembre, après plus de 13 ans de guerre civile.
La tension commerciale a baissé d'un cran ce jeudi, après une volte-face des États-Unis sur les droits de douane imposés aux produits du Canada et du Mexique. Mais le bras de fer continue avec la Chine. La directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce appelle à ne pas paniquer, Alexandrine Olognon.
La chef de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a indiqué lors d'une conférence au siège de l'organisation à Genève qu'il s'agit d'un moment difficile, un défi, et assurer comprendre l'énorme inquiétude des gens. Mais nous ne devrions pas paniquer et je ne suis pas d'accord pour dire que le système est dans le chaos ou la tourmente, a-t-elle assuré. De retour à Washington, où elle a rencontré le ministre américain du Commerce, Howard Lutnick, et le représentant de la Maison-Blanche au Commerce, Jamison Greer, Madame Okonjo-Iweala a affirmé que les États-Unis, d'après les indications qu'elle a reçues, continuent à faire partie de l'OMC. Le président américain Donald Trump a suspendu jeudi jusqu'au 2 avril les droits de douane de 25% pour les produits mexicains et canadiens. Mais pour la Chine, la surtaxe est passée à 20% en début de semaine. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a dénoncé des tentatives d'imposer une loi de la jungle et promis que Pékin répondrait fermement à la guerre commerciale lancée par Donald Trump.
Le président américain a déclaré que les droits de douane frappant le Canada et le Mexique pourraient augmenter à l'avenir dans une interview diffusée ce vendredi, après avoir accordé un sursis temporaire à certains prélèvements élevés frappant les voisins des États-Unis. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'entretiendra en Afrique du Sud avec le président Cyril Ramaphosa le 10 avril, a déclaré aujourd'hui un porte-parole du chef d'État sud-africain. Cette visite s'inscrit dans la continuité des engagements pris par le président Ramaphosa avec le président Poutine et le président Zelensky sur un processus inclusif qui ouvrira la voie à la paix entre la Russie et l'Ukraine, a déclaré le porte-parole Vincent Maguenia. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Nathalie Barge.
Lors d'une conférence à Johannesburg hier, Microsoft a annoncé de futurs investissements de 298 millions de dollars dans l'intelligence artificielle et les centres de données en Afrique du Sud, ce qui représente un total d'un milliard de dollars pour des data centers dans ce pays, si l'on prend en compte les annonces précédentes du géant de la tech américain, qui a par ailleurs affirmé que 50 000 personnes seront formées en architecture cloud, intelligence artificielle et cybersécurité. La société de mobilité électrique Bazigo a annoncé également jeudi le déploiement de 28 nouveaux bus électriques au Rwanda à partir du mois d'avril. De nouvelles stations de recharge vont être créées et les capacités de son dépôt central vont être optimisées, de même que sa chaîne de production au Kenya va être renforcée pour produire un millier de bus électriques en Afrique de l'Est sur 3 ans. Ecobank Cameroun affirme avoir accordé depuis mars 2024 un financement de plus de 2 millions de dollars aux femmes entrepreneurs et entreprises dirigées par des femmes ou axées sur les femmes lors de la présentation du nouveau programme Elevate à Douala. La direction a dit que 1 600 femmes entrepreneurs, entreprises et associations ont pu bénéficier d'un soutien financier.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Le TAS ordonne à la CAF d'accepter la candidature d'Eto'o au comité exécutif.
Le tribunal arbitral du sport a ordonné ce vendredi à la Confédération africaine de football d'accepter la candidature du président de la fédération camerounaise FECAFOOT, Samuel Eto'o, à son comité exécutif. Le TAS admet l'appel de Samuel Eto'o et ordonne à la CAF d'intégrer son nom sur la liste des candidats, est-il écrit dans un communiqué du tribunal basé à Lausanne. En janvier, la CAF avait refusé la candidature de l'ancien meilleur joueur africain, président de la FECAFOOT depuis 2021, à l'élection des membres du comité exécutif de l'Assemblée générale extraordinaire de la CAF, qui doit se tenir le 12 mars. Eto'o, par ailleurs, en conflit avec le ministère des Sports du Cameroun, avait fait appel auprès du TAS de cette décision.
Nathan Ake, absent 10 à 11 semaines avec Manchester City.
Le défenseur central néerlandais, récemment opéré à un pied, sera indisponible 10 ou 11 semaines, a annoncé ce vendredi son entraîneur en Manchester City, Pep Guardiola. Le joueur de 30 ans est sorti à la mi-temps du match de Coupe d'Angleterre contre Plymouth le 1er mars, après avoir aggravé une blessure ancienne au pied gauche. Manchester City a été affaibli cette saison par de nombreuses blessures dans le secteur défensif. Un mal qui concerne actuellement John Stones et Manuel Akanji, encore contraints au forfait samedi chez Nottingham Forest.
Italie, 5 équipes en 8 points. La Serie A, rarement aussi indécise.
Un leader, l'Inter Milan, qui n'arrive pas à battre les autres cadors. Un dauphin, Naples, qui ne gagne plus depuis un mois et demi. Un outsider, l'Atalanta, qui manque cruellement de constance. La course au titre de champion d'Italie est imprévisible tant les trois principaux candidats séparés seulement par 3 points déçoivent leurs supporters. La course au titre n'a plus été aussi indécise depuis 1996-97. Avant la 28e journée ce week-end et à 11 journées du terme de la saison, 5 équipes, Inter, Naples, Bergame, Juventus et Lazio, se tiennent en 8 points.
NBA, Curry flambe encore, LeBron et Doncic viennent à bout des Knicks.
Le meneur des Golden State Warriors, Stephen Curry, a de nouveau flambé en marquant 40 points face aux Brooklyn Nets. La star des Warriors traverse une période faste et le fait savoir en faisant trembler les filets des salles NBA, soir après soir, avec ses tirs lointains, parfois hautement spectaculaires. Et le nouveau duo terrible des Lakers, LeBron James, Luka Doncic, 63 points à 2. est venu à bout des Knicks en prolongation jeudi soir à NBA. Les deux stars ont réalisé un double-double, 31 points et 12 rebonds pour l'Américain, 32 points et 12 passes pour le Slovène, et permis à Lakers de remonter la pente après un deuxième quart-temps raté.
Page de sport VOA Afrique, signé Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. RDC, l'ancien président Joseph Kabila mène des consultations politiques en dehors du pays. Kinshasa, qui souhaite mettre sur pied un gouvernement d'union nationale, accuse l'ancien président d'être impliqué dans la guerre qui fait rage dans l'est du pays. Eddy Sango a joint à Kinshasa le secrétaire permanent adjoint de son parti, le PPRD, Ferdinand Kambere.
Joseph Kabila, c'est un ancien président de la République qui a une formation politique, qui a une plateforme, le FCC, le PPRD qu'il a lui-même initié et que donc, en tant qu'acteur politique, dernièrement, il a fait sa sortie, son comeback politique pour annoncer clairement son intention d'être actif dans les domaines politiques. Et à cela, c'était d'abord du communiqué du FCC. Maintenant, c'était la tribune en Afrique du Sud qui a été suivie par une interview accordée à un journaliste namibien. Donc, c'est cela.
Que propose l'ancien président Joseph Kabila alors qu'il est accusé par son prédécesseur d'être justement derrière cette guerre?
Tu vois qu'en réalité, sans justification pour expliquer ces déboires, cet abandon des FRDC, Félix, peut-être il pense que s'il accuse comme quand il était à l'opposition Kabila d'être derrière ça, parce qu'ils l'ont dit même quand Kabila gouvernait et que c'était lui qui a créé l'M23, ils l'ont dit. C'est curieux qu'aujourd'hui, et qui gouverne aujourd'hui, au lieu de trouver une solution, c'est eux qui aggravent la crise. Ils ont ramené les M23 qui étaient défaits. Les M23 est là, ils ne font que reculer, alors que la population attend que ces M23 soient repoussés du territoire congolais et surtout les armées étrangères telles que Pili. Le régime tend plutôt à en inviter d'autres qui n'apportent même pas de solution à raviver l'activisme des groupes armés dont les plus délicats sont par exemple ceux du Rwanda, parce qu'ils ramènent de cette façon comme ça un discours qui est favorable à une crise lorsque le Rwanda veut justifier sa présence. Aujourd'hui même l'Ouganda, quand on suit le général Muhoozi qui commande les UPDF, au-delà du discours qui était développé au départ, qu'ils sont à la recherche de ZDF, pourtant qui commettent des massacres en RDC, aujourd'hui les langages commencent, les narratifs de l'Ouganda changent, qu'ils viennent protéger un peuple qui aurait même sans que leur sang. Ça devient donc dangereux.
Que vise l'ancien président Joseph Kabila à travers ces consultations qu'il a initiées?
C'est d'abord, avoir la même compréhension que tout le monde, que le pays est en crise. Il ne pensait pas que les pays pouvaient revivre des situations aussi calamiteuses comme aujourd'hui, parce qu'au moins là, il s'était inscrit dans la voie de la démocratie qui n'est plus là. Aujourd'hui, c'est la tyrannie. Vous avez même appris ce matin que le vice-président Aubin est invité à l'auditorat. Qu'est-ce qu'il a à voir avec l'auditorat militaire?
Ferdinand Kambere, le secrétaire permanent adjoint du PPRD, le parti de Joseph Kabila. Plusieurs installations utilisées par l'armée française au Sénégal ont été restituées aujourd'hui au pays. Ce sont les premières installations transférées dans le cadre, d'ici la fin de l'année, du retrait militaire de la France du Sénégal. Comment cette rétrocession pourrait-elle influencer la stratégie de défense du Sénégal? Pour une analyse, Alexandrine Ollongnon a joint Dr Mamadou Boudian, chercheur à l'Institut fondamental d'Afrique noire à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.
C'est une décision auquel on s'attendait, puisque c'est inscrit dans une dynamique plus large aussi, que nous avons observé un peu partout au Sahel. La première réunion d'ailleurs de la commission conjointe franco-sénégalaise qui s'est tenue en février a permis d'établir ce calendrier de restitution des bases, avec évidemment la remise des quartiers Maréchal Saint-Exupéry déjà aujourd'hui Et ce qui marque évidemment une transition qui est aussi la manifestation d'une volonté de préserver des relations bilatérales, tout en affirmant évidemment une autonomie stratégique du Sénégal.
Vous avez évoqué le calendrier établi pour cette rétrocession. Après cette première étape, quelle est la suite ?
La rétrocession va continuer, mais la coopération militaire entre le Sénégal et la France ne va pas s'arrêter brutalement, avec la fermeture des bases. D'ailleurs, l'accord de défense qui a été signé en 2012 entre les deux pays reste un cadre juridique valable et pourrait être amendé pour maintenir certaines formes de collaboration. Et des discussions sont en cours pour définir en tout cas les nouveaux axes de collaboration, notamment dans les domaines de la formation militaire, du partage de renseignements et surtout aussi du soutien logistique, puisque la menace sécuritaire, elle n'est pas uniquement une menace qui s'impose au Sénégal ou de la région, mais ça va au-delà des frontières. Et je pense que la visite aussi du ministre des Affaires français pourrait être une occasion pour clarifier peut-être les modalités d'une coopération post-retrait.
La rétrocession de ces bases utilisées par l'armée française au Sénégal implique aussi le renvoi du personnel sénégalais qui travaillait sur ces bases. Est-ce que vous savez si le gouvernement sénégalais a pris des garanties pour accompagner ce personnel sénégalais ?
Oui, en fait, ça c'est les conséquences naturelles de ce retrait, puisqu'évidemment les bases françaises avaient, et surtout les Français qui étaient basés au Sénégal, avaient employé un certain nombre de personnels, des Sénégalais en particulier, qui aujourd'hui se retrouvent dans une situation de chômage, dans une certaine mesure, ce qui suscite évidemment beaucoup d'inquiétudes. Mais évidemment, l'État du Sénégal est très conscient, mais c'est une question aujourd'hui qui se pose et qui mérite d'être prise en charge.
Comment cette actualité est-elle vue au Sénégal ? Est-ce que la société civile a réagi, l'opposition ? De manière générale, quel est leur avis sur cette actualité ?
Je pense que de manière globale, cette actualité est reçue comme une décision en phase avec une volonté manifeste de l'État du Sénégal de garantir sa souveraineté, mais surtout de se recentrer autour de sa capacité à prendre en charge les questions de sécurité.
Mamadou Boudian de l'Université Charanta Diop de Dakar. Le président américain Donald Trump a ordonné lundi une pause dans les livraisons d'aide militaire à l'Ukraine avec effet immédiat, ce qui, selon son administration, vise à forcer toutes les parties à entamer des pourparlers de paix. Mise en perspective, Henri Riguel depuis Londres, le récit est de Thierry Kaori.
Alors que l'on apprenait dans la nuit de lundi à mardi la décision des États-Unis d'interrompre l'aide militaire à Kiev, les drones russes continuaient de pleuvoir sur les villes ukrainiennes. Les législateurs ukrainiens affirment que les conséquences de la décision de Washington seront brutales. Oleksiy est un législateur ukrainien.
Cela signifie que des milliers de personnes vont mourir.
À l'ouest de Donetsk, en Ukraine, près de la ville de Pokrov, la guerre continue. Berf est le nom donné au commandant de l'unité de la 14e brigade ukrainienne.
Nous tirons avec un obusier italien, mais nous recevons beaucoup de munitions, y compris du calibre 105 mm des États-Unis. Il s'agit de la norme de l'OTAN, utilisée à la fois en Europe et aux États-Unis. J'espère que oui.
L'Europe peut-elle combler le gap avec le gel de l'aide militaire des États-Unis ? Marc Galeotti est un expert sur la Russie pour Mayak Intelligence.
Il y a certains systèmes allant des missiles Patriot aux pièces détachées pour les chars Abrams et les véhicules de transport de troupes Bradley et que les Ukrainiens utilisent et que les Européens ne peuvent obtenir qu'en les achetant sur le marché libre. Et cela va prendre du temps.
Mais l'Ukraine produit de plus en plus ses propres armes. Malcolm est directeur adjoint du Royal United Service Institute, un groupe de réflexion sur la défense et la sécurité.
Il est probable qu'environ la moitié des armes que l'Ukraine utilise aujourd'hui soient fournies par sa propre industrie de défense. Et pour le reste, c'est moitié-moitié entre les États-Unis et les autres, y compris les Européens.
Les États-Unis fournissent d'autres aides cruciales au-delà de l'envoi d'armes occidentales à l'Ukraine. De nouveau, Malcolm, du Royal United Service Institute, un groupe de réflexion sur la défense et la sécurité.
Et enfin, les États-Unis jouent un rôle très important en fournissant des informations, des renseignements aux forces ukrainiennes.
L'administration Trump affirme que l'arrêt de l'aide militaire a pour but de s'assurer que cela contribue à une solution. J.D. Vance, vice-président des États-Unis.
Ni l'Europe, ni les États-Unis, ni les Ukrainiens ne peuvent continuer cette guerre indéfiniment. Il est donc important que tout le monde s'assoie à la table des négociations.
Le premier ministre britannique a déclaré dimanche qu'une coalition de volontaires continuerait à soutenir l'Ukraine. Marc Galeotti de Mayak Intelligence.
L'affirmation du vice-président américain Vance, selon laquelle de nombreux dirigeants européens qui, sur les médias sociaux et en public, soutiennent Kiev, mais qui, en privé, sont beaucoup plus sceptiques, n'est pas tout à fait erronée. Est-ce que vous continuez à vider vos propres forces armées et à vous aliéner votre plus puissant allié et garant en matière de sécurité au nom de la défense de l'Ukraine?
La Russie, quant à elle, a salué la décision de Washington d'interrompre l'aide militaire à l'Ukraine, affirmant que cela pourrait aider, je cite, à régler la situation par des moyens pacifiques.
Allons maintenant en Éthiopie pour vibrer au rythme du Begena, un instrument de musique considéré comme l'un des plus anciens d'Éthiopie et qui apaiserait les tourments. Dans la capitale éthiopienne Addis Abeba, l'instrument à cordes rassemble chaque vendredi des musiciens dans une maison de retraite. La thérapie par le Begena, c'est un récit d'Alexandrine Olignon.
L'instrument d'environ un mètre, qui ressemble à une grande lyre et à une forme de trapèze, est composé de 10 cordes, en référence aux 10 commandements fabriqués en boyau de mouton. Le premier Begena aurait été rapporté d'Israël par Ménélik I, le premier empereur d'Éthiopie, qui l'aurait reçu du légendaire roi David. Il se joue de la main gauche et accompagne depuis des siècles la prière et la méditation des moines de l'église orthodoxe éthiopienne Teyahedo. Initialement réservé à une élite, le Begena est aujourd'hui accessible. Biruk Tawit Tassiou, 23 ans, qui en joue depuis environ un an, le considère comme une médecine de l'âme.
Nous sommes ici, le Begena nous amène vers les cieux, vers le paradis. C'est une façon de se rapprocher de Dieu. C'est pourquoi je décrirai le Begena comme une médecine de l'âme.
Depuis 3 ans, chaque vendredi, les musiciens se rendent dans une maison de retraite de la capitale Addis Abeba pour jouer de cet instrument. Les joueurs de Begena portent un étela, un tissu blanc traditionnel, croisé sur la poitrine pour les hommes, et comme un voile pour les femmes. Dans la petite cour de la maison de retraite, Grace Nursing Home, l'assemblée écoute religieusement. Nathanael Ailou, cofondateur de l'institution, a été choqué par les effets de l'instrument sur les pensionnaires.
Nous avons essayé la thérapie de groupe et la thérapie individuelle. Les patients très malades, alités, quand le Begena est joué à leur chevet, ils oublient la douleur et se concentrent sur la musique. Ils s'endorment, ils se détendent. Si la séance dure 30 minutes, ils s'endorment au bout de 10, même ceux qui restent généralement éveillés toute la nuit. Ça calme leur rythme cardiaque, ça fait baisser leur tension artérielle, ça les apaise. Plus que n'importe quel instrument, la thérapie par le Begena a un véritable effet calmant.
D'autres médecins commencent à se pencher sur l'influence positive de l'instrument pour les personnes souffrant de maladies chroniques. Jane Bookman, cardiologue et enseignant à l'Université américaine de Harvard, évoque le caractère prometteur du Begena après avoir assisté à une représentation. Hermias Ailai, qui joue durant des opérations chirurgicales, a fondé il y a 7 ans une école qui forme actuellement plusieurs dizaines d'élèves, en présentiel ou à distance, à la pratique de l'instrument.
J'aimerais beaucoup voir le Begena atteindre un statut bien plus élevé. Tout a commencé parce que je voulais partager cette ambition avec les étudiants. Si Dieu le veut, nous avons ouvert, mais nous avons eu beaucoup de difficultés. C'est une nouveauté. J'étais jeune, je n'étais pas stable financièrement, j'étais inconnu, et ouvrir une école dans une petite cabane était un défi. Mais nous sommes toujours là avec l'aide des dieux.
« Le jeune homme qui a également fondé avec un associé une petite entreprise qui confectionne et exporte des béguinas espère à terme ouvrir des écoles à travers le monde et pouvoir aider de nombreux patients.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.